Chapitre 16. Le credo capitaliste. L'argent a été essentiel pour bâtir des empires et promouvoir la science. Mais l'argent est-il le but ultime de ces entreprises ou peut-être juste une dangereuse nécessité? Il n'est pas facile de saisir le véritable rôle de l'économie dans l'histoire moderne. Des volumes entiers ont été écrits sur la manière dont l'argent a créé des États et les a ruinés, ouvert des horizons nouveaux et a servi des millions de gens, fait tourner les rouages de l'industrie et condamné des centaines d'espèces à l'extinction. Pourtant, si l'on veut comprendre l'histoire économique moderne, il n'y a en vérité qu'un seul mot à comprendre. Et ce mot, c'est croissance. Pour le meilleur ou pour le pire, malade ou en bonne santé, l'économie moderne a cru, tel un adolescent gavé d'hormones. Elle avale tout ce qu'elle trouve et pousse sans même qu'on s'en rende compte. Pendant la majeure partie de l'histoire, l'économie a gardé largement la même taille. Certes, la production mondiale s'est accrue, mais cette croissance fut essentiellement l'effet de l'expansion démographique et de la colonisation de terres nouvelles. Tout cela changea cependant à l'époque moderne. En 1500, la production mondiale de biens et de services se situait autour de 250 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle tourne autour de 60 billions de dollars. Qui plus est, en 1500, la production annuelle moyenne par tête était de 550 dollars, alors qu'aujourd'hui, chaque homme, chaque femme et chaque enfant produit en moyenne 8 800 dollars par an. Comment expliquer cette prodigieuse croissance? L'économie est un sujet notoirement compliqué. Pour faciliter les choses, prenons un exemple simple. Sam Cupid, financier malin, fonde une banque à Eldorado, en Californie. A. Pierre, entrepreneur d'Eldorado, qui monte, achève son premier gros chantier pour lequel il reçoit 1 million de dollars en espèces. Il dépose cette somme à la banque de Monsieur Cupid. La banque détient maintenant un capital d'1 million de dollars. Dans le même temps, Jane Bonpatt, chef cuisinière expérimentée mais impécunieuse à Eldorado, pense voir une opportunité de faire des affaires. La ville manque d'une boulangerie digne de ce nom. Mais elle n'a pas assez d'argent pour acheter une affaire bien équipée avec des fours industriels, des éviers, des couteaux et des casseroles. Elle va à la banque, soumet son projet à Cupid et le persuade que le placement en vaut la peine. Il lui accorde un prêt d'1 million de dollars. Créditant son compte en banque de cette somme. Bonpatt fait alors appel au service de Pierre, chargeant l'entrepreneur de construire et d'équiper la boulangerie. Il lui demande 1 million de dollars. Quand elle le paie avec un chèque tiré sur son compte, Pierre le dépose sur son compte à la banque Cupid. Combien d'argent Pierre a-t-il alors sur son compte en banque? Exactement 2 millions de dollars. Mais combien d'argent d'espèces se trouve exactement dans le coffre de la banque? 1 million de dollars. Ça ne s'arrête pas là. Après 2 mois de chantier, c'est une habitude chez les entrepreneurs, Pierre fait savoir à Bonpatt qu'en raison de problèmes et de frais imprévus, la facture de la construction de la boulangerie s'élèvera en fait à 2 millions de dollars. Madame Bonpatt est mécontente, mais elle ne peut guère arrêter le chantier en plein milieu. Elle se rend donc de nouveau à la banque et convainc M. Cupid de lui accorder un prêt supplémentaire. Il dépose sur son compte encore 1 million de dollars, qu'elle vire sur le compte de l'entrepreneur. Combien d'argent Pierre a-t-il alors sur son compte en banque? 3 millions de dollars. Mais combien d'argent se trouve réellement à la banque? Toujours 1 million de dollars. En fait, le même 1 million de dollars qui est à la banque depuis le début. Dans les grandes lignes, la loi bancaire actuelle aux États-Unis permet à la banque de répéter cet exercice encore 7 fois. L'entrepreneur finirait par avoir 10 millions de dollars sur son compte, alors même que la banque n'a toujours qu'1 million dans ses coffres. Les banques sont autorisées à prêter 10 dollars pour chaque dollar qu'elles possèdent réellement, ce qui veut dire que 90% des sommes déposées sur nos comptes en banque ne sont pas couvertes par des pièces de monnaie ou des billets de banque. Si tous les titulaires de compte à la Barclays Bank exigent soudain leur argent, c'est la faillite assurée de la banque, à moins que les pouvoirs publics n'interviennent pour la sauver. Il en va de même pour Lloyds, Deutsche Bank, Citibank et toutes les autres banques du monde. Ça vous a tout l'air d'une pyramide de Ponzi, n'est-ce pas? Mais si c'est un montage frauduleux, alors toute l'économie moderne n'est qu'une fraude. Le fait est que ce n'est pas une duperie, mais plutôt un hommage aux ressources stupéfiantes de l'imagination des hommes. C'est notre confiance dans le futur qui permet aux banques et à toute l'économie de survivre et de prospérer. Cette confiance est l'unique support de la majeure partie de l'argent dans le monde. Dans l'exemple de la boulangerie, l'écart entre le relevé de compte de l'entrepreneur et la somme effectivement à la banque correspond à la boulangerie de bonne pâte. Monsieur Cupid a placé l'argent de la banque dans cet actif, certain qu'il finirait par être profitable. La boulangerie n'a pas encore cuit une seule miche de pain, mais Bonne Pâte et Cupid anticipent que d'ici à un an, elle vendra chaque jour des milliers de pains, de viennoiseries, de gâteaux et de cookies avec un joli profit. Madame Bonne Pâte pourra alors rembourser son prêt avec les intérêts. Si Monsieur Pierre décide de retirer ses économies, Cupid sera en mesure de lui verser des espèces. Toute l'entreprise est donc fondée sur la confiance en un avenir imaginaire, la confiance de l'entrepreneur et du banquier dans la boulangerie de leurs rêves, mais aussi celle de l'entrepreneur dans la solvabilité future de la banque. Nous avons déjà vu que la monnaie est une chose stupéfiante parce qu'elle peut représenter une multitude d'objets différents et convertir tout en presque tout. Avant l'ère moderne, cependant, cette capacité était limitée. Dans la plupart des cas, l'argent ne pouvait représenter et convertir que des choses qui existaient réellement dans le présent. La croissance s'en trouvait de ce fait sévèrement limitée, puisqu'il devenait très difficile de financer les nouvelles entreprises. Reprenons l'exemple de notre boulangerie. Bonne Pâte pourrait-elle la faire construire si la monnaie ne pouvait représenter que des objets tangibles? Non. Pour l'instant, elle n'a que des rêves, aucune ressource tangible. La seule manière pour elle de la faire construire serait de dénicher une entreprise prête à travailler aujourd'hui et à être réglée quelques années plus tard, quand la boulangerie commencerait à gagner de l'argent. Hélas, les entrepreneurs de ce genre sont une espèce rare. Tel est le dilemme de notre boulangère. Sans boulangerie, pas de gâteau. Sans gâteau, pas d'argent. Sans argent, impossible de solliciter une entreprise. Et sans entrepreneur, pas de boulangerie. L'humanité est demeurée piégée par ce dilemme des milliers d'années durant. De ce fait, l'économie est restée figée. L'issue n'a été découverte que dans les temps modernes, avec l'apparition d'un nouveau système fondé sur la confiance dans l'avenir. Les hommes consentirent alors à représenter des biens imaginaires, des biens qui n'existent pas à l'heure actuelle, par une forme de monnaie spéciale qu'ils nommèrent crédit. Le crédit nous permet de construire le présent aux dépens du futur. Il repose sur le postulat que nos ressources futures seront à coup sûr bien plus abondantes que nos ressources présentes. Si nous pouvons utiliser des revenus futurs pour construire des choses à présent, de nouvelles opportunités merveilleuses s'ouvrent à nous. Si le crédit est une chose aussi merveilleuse, pourquoi personne n'y a pensé plus tôt? Bien sûr que si, on y a pensé. Dès l'antique Sumer, au moins, toutes les cultures humaines ont connu une forme ou une autre de système de crédit. Le problème des époques antérieures n'est pas que personne n'en ait eu l'idée ou n'ait su s'en servir. Il était que les gens étaient rarement disposés à accorder beaucoup de crédit parce qu'ils avaient peine à croire que le futur vaudrait mieux que le présent. Ils croyaient généralement que le passé était meilleur que leur propre époque et que l'avenir serait pire, ou au mieux, largement pareil. En termes économiques, ils pensaient que la quantité de richesse totale était limitée si elle ne s'amenuisait pas. Ils estimaient donc que c'était un mauvais pari que de supposer qu'eux-mêmes, leur royaume ou le monde entier, produiraient plus de richesses dans 10 ans. Les affaires ressemblaient à un jeu à somme nulle. Certes, les profits de telle ou telle boulangerie pouvaient augmenter, mais cela ne se faisait qu'au détriment de la boulangerie voisine. Venise pouvait prospérer, mais uniquement en appauvrissant Gênes. Le roi d'Angleterre pouvait s'enrichir, mais à la seule condition de voler le roi de France. Il y avait de multiples façons de découper le gâteau, mais il n'était jamais plus gros. C'est précisément ce qui amena de nombreuses cultures à conclure qu'amasser de gros pécules était un péché. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille dit Jésus, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 24. Si le gâteau est statique, et si j'en ai une grosse part, c'est que j'ai dû prendre la tranche d'un autre. Les riches devaient se repentir de leurs méfaits en consacrant une partie de leur excédent de richesse à la charité. Si le gâteau total restait de la même taille, il n'y avait aucune marge de crédit. Le crédit, c'est la différence entre le gâteau d'aujourd'hui et celui de demain. S'il reste le même, pourquoi accorder du crédit? Ce serait prendre un risque inacceptable, sauf à croire que le boulanger ou le roi qui vous demande de l'argent pourra en voler une tranche à un concurrent. Aussi était-il difficile d'obtenir un prêt dans le monde prémoderne, et quand vous en obteniez un, il était généralement modique à court terme et assorti de taux d'intérêt élevés. Les entrepreneurs en herbe avaient donc du mal à ouvrir de nouvelles boulangeries, et les grands rois qui voulaient construire des palais ou mener des guerres n'avaient d'autre choix que de lever les fonds nécessaires par des impôts et tarifs douaniers élevés. C'était fort bien pour les rois, tant que leurs sujets restaient dociles. Mais une fille de cuisine, qui avait une grande idée de boulangerie et voulait s'élever dans le monde, en était généralement réduite à rêver de la richesse en récurant le sol des cuisines royales. C'était perdant-perdant. Le crédit étant limité, les gens avaient du mal à financer de nouvelles entreprises. Celles-ci étant rares, l'économie ne croissait pas. Faute de croissance, les gens supposaient qu'il n'y en aurait jamais, et ceux qui avaient du capital hésitaient à faire crédit. La prévision de stagnation se réalisait d'elle-même.